Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du jeudi 25 septembre 2025. On se retrouve avec un Bitcoin en léger recul sous les 112 000 $ et c'est Ether qui continue, lui, par contre, de dérouler à la baisse proche de ses 4 000 $. Il est légèrement passé en dessous ce matin. On voit qu'au niveau du top 10, c'est pas reluisant avec Avalanche qui, après nous avoir fait une semaine dernière qui était assez exceptionnelle, recule de moins de 10%. On a également moins 7,44 du côté de Crow de Crypto.com, 10% de recul pour Mantle, 21% pour Story. Et ce top 50 qui se clôture toujours avec plus ou moins les mêmes Atom, Cosmos, VeChain, Pumpfund qui sont entre 1,8 et 1,9 milliards de capitalisation. Donc toujours pas malheureusement d'alt season à l'horizon avec ce top 50 qui recule. Et quand on voit l'action de prix à court terme de Bitcoin, eh bien malheureusement on n'est pas très loin en effet de passer du neutre sur le Crypto Fiat Grid Index à la peur quelque part. Et le market flow nous démontre aussi que on a plutôt un flux qui est en l'état vendeur. On est sur un support autour de 111-112 et on a les open interest qui accompagnent pour l'instant ce mouvement. Alors, est-ce qu'on va essayer de se faire peur, de venir sous les 110, voire dans l'ultime recours, venir retester cette zone des 100 000 $ avant de repartir en octobre? En tout cas, pour l'instant, tous ces scénarios-là sont sur la table. Et donc, plutôt que de se perdre sur les quelques infos qu'il y avait, on les traitera au cours du week-end pour les plus importantes d'entre elles. Je vous propose aujourd'hui de faire un tour d'horizon des graphiques et en même temps je vous donne mon sentiment par rapport au marché. Le Crypto 30, donc après avoir eu bon espoir la semaine dernière de percer, je vous disais le Crypto 30 est sur le pas de tir, le Crypto Total 2 sur le pas de tir, le 3 aussi, et malheureusement dès lors qu'on revient sur cette zone de polarité, pour l'instant ça ne veut pas passer. Et quand on regarde ici la bougie qui est en train d'être faite cette semaine, eh bien c'est pas super intéressant puisqu'on est en train de ravaler l'intégralité de la bougie d'il y a 15 jours. Et derrière, c'est plutôt un signal qui est défavorable à court terme. Donc pareil, quand on regarde les oscillateurs, eh bien, le RSI, pour l'instant, il ne nous donne pas grand-chose à exploiter, si ce n'est que, comme je vous disais la dernière fois, on est en train de faire un peu comme une balle de tennis qu'on aurait jetée et qui, petit à petit, est en train de perdre sa vélocité. C'est pareil du côté du momentum du MACD. Et quand on regarde le crypto total, alors pour l'instant, pareil, c'est pas catastrophique. Et on pourrait venir, en effet, sur la borne basse de ce range, autour de 3600 milliards avec la moyenne mobile 20 qui nous attend. On est dans un petit rectangle. D'ailleurs, toutes les contractions qu'il y a eu sur ce cycle, je vous les ai notées ici en petit pointillé au niveau du Bitcoin. On en avait eu une première qui a débuté en février 2023. On était alors à 980 milliards. On avait eu un petit triangle ici qui s'est résolu à la hausse. Ensuite, on a eu une petite période de flottement de décembre 2023 à février 2024. Grosse poussée de nouveau. Énorme bull flag qui a duré quand même de mars 2024 à son extraction en octobre 2024, repoussé. Biseau descendant de octobre 2024 à avril 2025, au moment des tarifs de Trump. Ça a été un peu l'apogée de cette baisse. On était revenu autour de 2360 milliards. Et de nouveau, là, on est en train de refaire l'escalier comme d'habitude. On avait eu une belle poussée, un petit escalier de mai à juin-juillet. Derrière, petite poussée. Et là, maintenant, on est dans un rectangle complètement à plat avec ce double échec quelque part entre les 4 000 à 4 100 milliards et les 4 160 qu'on a touché. Le souci, comme je vous disais à l'instant, c'est que on s'est fait repousser à 3 reprises au niveau du RSI, quasi pile poil sur la même zone qui est comprise entre, on va dire, les 64 et les 70 de RSI. Donc c'est vraiment une trend très long terme, ça, puisque là vous avez plein de traits affichés à l'écran, un gris, un bleu, un rouge, mais en gros c'est des trends qui sont hebdomadaires ou mensuels. Donc tout ce qui se passait pour ce cycle autour de 70 et des brouettes de RSI, ou bien autour de 77 quand on était en décembre 2024, on voit qu'à chaque fois le RSI n'a pas réussi à récupérer la force pour aller faire un nouveau point haut, tandis que le cours lui continuait de nous faire des nouveaux points hauts. Donc tout ça a été très largement drivé par les ETF, ça s'est très très bien passé depuis janvier 2024. Et là aussi, quand on regarde le momentum du MACD, hebdo, on est en train de croiser bear, c'est-à-dire on va croiser à la baisse, on risque d'avoir les premiers histogrammes négatifs. Donc c'est encore un peu trop tôt pour le dire, et comme je vous disais, on va pas vendre la peau des boules avant de les avoir eues, et je me positionne plutôt moi à l'achat en général qu'à la vente dans tous les cas. Donc ça m'intéresse quand le marché baisse pour racheter, mais c'est jamais des situations qui sont super agréables dans tous les cas. Donc pour l'instant, on va viser les 3600 si jamais ça se gâte, et ensuite on a plusieurs moyennes mobiles et on regardera les FIBO si tant est qu'on venait à avoir un automne donc en demi-teinte pour pour l'instant pour ce marché crypto. 1555 pour les alts qui ont tout juste sorti la tête du bois, 1740 pour un ATH précédent à 1710. Donc on venait malgré tout de faire un nouveau point haut et ça s'est fait rejeter pour les altcoins incluant Ether. Pareil, aujourd'hui on est sur un petit support intermédiaire, 1550. On a la moyenne mobile 20 à 1400 et ensuite le gros support ici autour de 1270-1300. Pareil, c'est en train de se dégrader. Exactement la même trend d'RSI, exactement le même move. À ceci près que les alts sont un peu en retard sur le crypto total incluant Bitcoin, puisque vous vous en doutez bien, le mouvement qu'il y a eu tardivement sur Ether a permis justement au crypto total de nous faire une très belle poussée, mais pour l'instant on n'a pas l'impression que ça veuille aller plus loin. Et c'est exactement la même musique pour le crypto total 3 qui exclut ce coup-ci Bitcoin et Ether. J'avais bon espoir ici qu'on franchisse les 1150 approximativement et qu'on aille chercher dans un premier temps les 1500 à plus 37, plus 38%. Pour l'instant ça ne passe pas et pareil, les oscillateurs de momentum sont en train malheureusement de faire le dos rond. Malgré tout, on a eu beaucoup de volume exécuté autour de ces zones sur ces derniers mois, donc je pense qu'il y a quand même des gens qui y croient. Mais est-ce que ces gens-là, c'est le reste des particuliers qui sont complètement encore englués aujourd'hui du côté des altcoins et qui croient dur comme fer que l'alt season leur est due, ou est-ce que ce sont les professionnels qui sont en train de se positionner? Voilà, je pense plutôt qu'on est sur des restes de particuliers. Certains altcoins bénéficient bien entendu très largement de l'arrivée des institutionnels, mais ça se concentre presque sur des dossiers qu'on pourrait compter sur les doigts d'une seule main. Bien entendu, l'effet miroir est inverse à tout ça, et on l'avait vu pareil dans la dernière émission, c'est le petit W qui est en train d'être fait sur la dominance des stablecoins, USDC, USDT face au crypto total. Le MACD, lui, va croiser boule, donc c'est vraiment le miroir inverse. On a le RSI qui est en train de nous faire des petits creux ascendants, et on est juste sous une zone de pivot très très importante, 0.07. Donc si jamais on vient à dérouler à la baisse et qu'on revoit Bitcoin autour de 100 000, ça va percer mécaniquement au nord, et on pourrait voir ce ratio donc autour de sa borne médiane de range dans un premier temps, qu'on pourrait considérer à 0.075, même si on n'a pas toute la nomenclature affichée ici à l'écran, et ensuite on a la moyenne mobile 200 autour de 0.08. Arrêtons-nous un instant pour observer Bitcoin face à l'euro, qui lui a peiné aussi à nous faire un nouveau point haut sur ce cycle, en tout cas sur la deuxième partie, puisqu'on avait un ATH aujourd'hui autour de 105, quasi 106 000 euros, et pareil, c'est une zone vraiment qui bloque désormais. On va se mettre d'ailleurs un tout petit trait ici, puisque je pense que pour plus tard, ça aura son importance. Donc on va voir ce que ça pourrait donner, puisqu'aujourd'hui, dans tous les cas, si on regarde comme ceci, on est un peu dans une congestion en fin de bout de triangle ici. Et c'est ce qu'on a observé la dernière fois, d'ailleurs, dans un tweet que j'ai repartagé récemment, où on avait les bandes de Bollinger également. Alors je l'utilise quasiment jamais pour ma part. C'est pas aujourd'hui que d'un seul coup, je vais vous dire, je suis un expert des bandes de Bollinger. Par contre, ce qu'elles sont en train de nous dire, c'est qu'elles sont les plus resserrées de l'entièreté de l'histoire du Bitcoin. Donc premièrement, ça va dans le sens de cette fameuse théorie qui n'en est plus une, c'est factuel, de la diminution de la volatilité sur Bitcoin. Donc fini les rêves pour ceux qui sont positionnés sur BTC de plus 500% à l'année ou je ne sais combien, bien que sur ce cycle, on ait fait à peu près 700% sur BTC en 2-3 ans. Désormais, pour les cycles suivants, déjà si on fait un x2 de 2 ans en 3 ans, etc., si on considère encore plus ou moins le cycle de 4 ans, et petit à petit, ça aussi, ça a l'air de vouloir prendre du plomb dans l'aile, ça sera quelque chose déjà de très honnête et très honorable. D'ailleurs, je crois que quand j'avais fait un peu tous les recoupements avec ChatGPT, les différentes IA, etc., on était potentiellement sur une volatilité implicite, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on se projette au travers du temps de 30 à 40%, peut-être 35% pour les prochaines années, ce qui voudrait dire que, en moyenne, Bitcoin, sur 5 à 10 ans, devrait nous offrir un rendement approximatif de 30 à 40% par an, quand bien même il y a des bear markets en cours de route. Donc vous voyez que petit à petit, on s'éloigne très très loin des rendements qu'on a eu précédemment. En tout cas, pour l'instant, autour de 112 000, on est au contact de la moyenne mobile 20. Le plus dur qui pourrait nous arriver quelque part dans un premier temps, ça serait de retoucher le bas de ce canal autour de 106 ici est vraiment la zone à défendre qui pour moi sera la zone un peu de on va dire démarcation de bear market. J'aime pas dire ce mot de bear market puisque de suite ça tend tout le monde. Il y a les gens dans les commentaires qui pètent littéralement des plombs dès qu'ils entendent bear market parce que c'est un mot presque traumatisant pour l'investisseur. Donc on va dire la zone de démarcation qu'il ne faut pas perdre et qui nous conduirait un peu plus bas si ça en tranquillise certains. Elle se trouve aujourd'hui pile poil autour de 99 000. C'est la moyenne mobile 50 qu'on n'a pas perdue en mi-avril 2025, qu'on n'a pas perdue en septembre 2024, qu'on a travaillé déjà à l'époque, on en était très proche en septembre 2023 quand on était en train de poser les bases de ce cycle haussier. Donc clairement, quand on regarde ce que nous a fait Bitcoin sur ce cycle, je l'ai dit un nombre incalculable de fois pendant ces derniers trimestres et à chaque fois on m'a dit oui mais t'es trop pessimiste, on a un Bitcoin qui est passé factuellement de 15 500 $ à 125 000 $. Donc aujourd'hui je vois encore des gens dire oui mais il n'y a pas eu de bull run. Je suis désolé, factuellement du côté de Bitcoin il y a eu le bull run, c'est juste qu'on n'a pas eu ce que nous on attendait du côté des altcoins. La Bitcoin dominance pour sa part 59%, donc évidemment voilà, défense du support, défense de la moyenne mobile le 100 qui se trouve à 57.8. On pourra avoir un rebond jusqu'à la 50 et la 20 qui se trouve entre 61 et 62% de dominance. Pareil, les oscillateurs sont en train de nous dire que malheureusement, le Bitcoin reste le lead. Il reste le roi incontesté, incontestable et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour ma part, je joue très très défensif par rapport au marché crypto. J'ai encore de très vieilles positions que je considère pour mortes quelque part sur des altcoins sur lesquelles je n'ai pas pris de profit sur ce cycle. Malheureusement, là aussi, quand on fait le rétro-travail et qu'on est quelque part assez pragmatique sur la situation, tous ces alts, combien même c'est des alts que j'ai achetés en 2022, 2023, 2024, c'est-à-dire soit pendant le bear, le dur du bear, soit des alts qui sont arrivés au marché là pendant ce cycle, l'immense majorité ont topé malheureusement en décembre 2024. Et au vu des contre-performances que j'ai sur tous ces bagues de nouveaux altcoins ou de pseudo-nouveaux altcoins, malheureusement, je sais que je ne récupérerai jamais l'intégralité de ce que j'avais au plus haut, justement, quelque part entre le premier trimestre 2024 et surtout ce fameux décembre 2024. Donc aujourd'hui, quand bien même tout le monde a des rêves d'altcoin, etc., voilà, il y a des bons dossiers, il y a des nouveaux arrivants comme Aster, on va en parler prochainement sur la chaîne, Hyperliquid qui a été très porteur sur ce cycle, du Solana, on a quelques bons dossiers, récemment on a Avax qui nous a fait une très belle performance. Mais sinon, si on regarde au global, bien entendu qu'on aura cette sensation malaisante autour des altes, qu'on a juste envie que ça s'arrête ce cycle, qu'on a juste envie de se débarrasser de toutes ces casseroles qu'on avait dans nos portefeuilles et qui aujourd'hui ne servent plus à rien. Et petit à petit, c'est en s'intéressant notamment à la bourse traditionnelle que personnellement, j'ai pas peur de le dire, là pour 2025 purement et simplement, j'ai gagné plus d'argent pour ma part sur le marché traditionnel que dans les cryptos qui à chaque fois font un pas en avant, deux pas en arrière. Ça donne pas forcément envie de déployer plus de capital malheureusement. Et en plus, au vu justement de cette incertitude assez croissante vis-à-vis de ce marché et du risque que ça représente, pour ma part, je garde une partie assez importante aujourd'hui en cash qui sera prête à être déployée, soit sur le marché crypto si jamais plus tard on a un dip relativement important, c'est moins de 30% et plus, soit sur le marché actions, etc., ou ETF, à partir du moment où on viendra chercher du moins 10, moins 15, moins 20, un peu comme on avait eu en avril 2025. Ether, pour sa part, c'est le moment ou jamais de se réveiller, puisque autour des 4 000 $, on est en train de faire un petit M-top ici sur un support, donc bien entendu qu'on croise les doigts. Le RSI est en train de défendre pareil son support, voire peut-être de le perdre. Le MACD va croiser très haut. Donc pareillement, si jamais ça lâche, dans un premier temps, c'est les 3600 pour Ether. Moyenne mobile, le 20 autour de 3466. On a le 0,5 de Fibo à 3175. L'énorme support avec moyenne mobile 100 et moyenne mobile 50 entre 2850 et 2900, pour pas dire 3000. Moyenne mobile 200 autour de 2460 et entre deux, on a le 0,618 à 2750 et ensuite l'extension 0,786 est à 2150. Le fameux 2150 qui nous a fait clairement suer sur ce cycle. Donc personnellement, tout ce qui se passera lors d'un futur bear market pour Ether quelque part entre, c'est une louche qui est très large, c'est un méga râteau. niveau, mais on va dire le monde DCA pour plus tard se passera quelque part entre 2000-2200 $ et les 2008-3000 pour Ether. Je suppose que ça en fera une zone de DCA tout à fait honorable lors du prochain bear market. Mais voilà, j'ai toujours cette réticence un peu par rapport au court terme où je me dis que pour jouer défensif, il vaut mieux en effet soit être sur Bitcoin et avoir une répartition qui en effet est relativement peu agressive au vu de ce que nous délivrent les alts. Passons un instant aux indices et commodités. On a le silver qui, ça y est, a bel et bien emboîté le pas au gold. Donc on aura un ATH à venir chercher vraiment pas très loin, autour de proche des $50. Je crois même que la mèche y était. Non, c'est 49,70. On a le gold qui nous a fait un nouvel ATH. Donc c'est ATH sur ATH. On était proche des 3800. C'est exactement le genre de chart qu'on a envie de voir du côté des cryptos, de Bitcoin, etc. Mais vous vous doutez bien de pourquoi on ne l'observe pas justement sur le bon vieux marché des crypto-monnaies, c'est que pour l'instant, les conditions ne sont toujours pas réunies. On a deux énormes streams, deux énormes trous noirs absorbeurs de liquidités que sont le gold et de l'autre côté les actions, les 7 magnifiques, mais surtout en tête de file, tout ce qui est IA, Nvidia et consorts, puisque Nvidia petit à petit est aussi en train de poser ses billes, que ça soit dans le côté, on va dire, Google, Microsoft, data center, etc., et dans le côté intelligence artificielle. Donc ils font les choses très bien et c'est cool pour eux puisqu'ils sont assis sur une montagne de cash. Donc clairement aujourd'hui, quand on regarde overall un peu les marchés traditionnels, vous avez d'un côté les taux longs qui payent entre 3,5% et quasiment 5% pour le 30 ans. On y était encore il y a deux semaines à 5%, on est à 4,74 aujourd'hui. On a eu un dollar qui s'est extrêmement affaibli et ça pareil, je suppose qu'en 2026, plutôt malheureusement que de partir à la cave, le dollar risque de rebondir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nos ETF et nos actions, notamment côté pour ceux qui ont par exemple le CW8 d'Amundi. Eh bien, on a eu une contre-performance à cause justement du fait que le dollar a reculé énormément et que l'euro était très fort face au dollar. Donc ça, ça nous permettra de récupérer un petit peu d'air. Quand bien même le S&P 500 viendrait à baisser, eh bien nous, si on a le dollar mécaniquement qui remonte, ça nous fera une petite surperformance sur la parité euro-dollar. Donc ça, c'est plutôt cool. Et d'un autre côté, comme je vous le disais également depuis quelques temps, on a un S&P 500 qui n'a que faire de la gravité. Ça continue de monter, ça monte, ça monte. On a des histogrammes au MACD qui sont en train petit à petit de faiblir. Le RSI qui est autour de 70 et qui, pareil, tôt ou tard pourrait lâcher. Donc vous en faites ce que vous voulez, mais personnellement, là, je ne suis plus du tout à l'achat sur le marché des actions américaines ou des ETF. Et par contre, au moindre moins de 10% ou quelque chose dans ces eaux-là, bien entendu que je reprendrai. Il y a des analystes, notamment comme Income Sharks sur Twitter, qui est très très bon, qui défendent le fait qu'à partir du moment où on va avoir une pause sur les actions américaines, on aura le roulement et la rotation vers les cryptos. J'ai quand même un énorme doute là-dessus, puisque si le S&P 500 déroule de 5 ou 10% à la baisse, je vois pas trop comment le Bitcoin va finir à 150 000 et les alts sur la Lune, mais pourquoi pas, puisque quand on observe le Russell, c'est-à-dire l'indice des micro-caps, des small caps sur les États-Unis, donc plutôt small que micro d'ailleurs, utilisons les bons mots s'il vous plaît, on vient de faire exactement ce qu'on a fait sur notre Crypto Total 2 et Crypto Total 3. On a passé la tête juste au-dessus et derrière, malheureusement, ça se fait repousser. Donc honnêtement, je pense qu'entre cet automne, fin d'année et début 2026, il va forcément se passer quelque chose. Est-ce qu'on va avoir aussi un top du côté du gold? Voilà, je pense que notamment quand il va s'approcher des 4000 $, ça va commencer un peu à coincer. Et ce qu'il va falloir surveiller, c'est un peu comme nos fameuses bandes de Bollinger du côté de Bitcoin, c'est aussi le VIX. C'est l'indice de la peur et de la volatilité du côté du marché américain, du S&P 500. Et regardez, le MACD s'apprête à croiser boule. Le RSI, pareil, nous fait un petit double creux et on est juste sous une zone importante de résistance, de pivot, peu importe comment on l'appelle. À chaque fois que vous allez avoir un énorme pic comme ça au niveau du VIX, c'est un moment où, la plupart du temps, déjà le S&P 500 risque ou s'est déjà pris un énorme shoot et derrière, ça vous fait des points d'entrée qui sont assez exceptionnels. Vous pouvez bien entendu faire une corrélation au niveau du marché crypto, mais voilà, c'est quelque chose à surveiller. À partir du moment où pendant longtemps cet indicateur est très bas et où quelque part on a une acceptation de la volatilité et de ce qui se passe sur les marchés, quand il y a des rebonds comme ça où on passe de 15-16 à des tops jusqu'à 60, voire ici, on voit en 2020, on avait eu 85, vous vous doutez bien que c'est des moments avec une telle peur et une telle irrationalité dans la peur dont s'emparent les marchés qu'il est opportun, bien entendu, pour ceux qui ont encore des poches de cash à ces moments précis, de déployer le capital. Et en général, à un horizon de temps de quelques années, ça se passe plutôt pas mal, voire même parfois quelques mois. Pour l'instant, pareillement que sur les cryptos, pour ma part, pas plus à exploiter sur les Bitcoin Treasury Company ou les Ether Treasury Company, ainsi que les minières. Donc, par exemple, AltBG pour les Français, ça continue de chercher du pétrole. Depuis le top à 6 euros, on est à 1 euro. Imaginez un peu le délire. On est à moins 83% pour ce truc. Et on voit qu'en logarithmique, on est à peine à même pas la moitié de la route de l'intégralité de la hausse. Alors, quand on fait les ratios de Fibo et tout ça, bien entendu, on est déjà au-delà de moins 80%. Mais par exemple, même si on prend à aujourd'hui cette zone de 1 euro et qu'on vient encore un petit peu plus bas ici, on voit qu'on a une belle zone de travail autour de 42 centimes. Ça nous fait une baisse additionnelle encore de moins 50 à moins 60%, voire peut-être ici aussi, on a un beau support, une belle zone de travail à moins 75, autour de 25 centimes. Donc, on a ce genre de société qui... Bah, théoriquement, on devrait malgré tout survivre s'ils ont suffisamment capitalisé justement sur la hausse, etc. Et s'ils ont un business plan assez solide, un peu comme MicroStrategy. Mais aussi, il faut prendre en considération que tous ceux qui sont arrivés tardivement, et ça sera peut-être le cas notamment de Tom Lee avec le fameux BMNR sur Ether, qui sont arrivés très très tard. Et est-ce qu'ils vont survivre au futur bear market? Je me pose énormément de questions. Donc faites très attention à ça si vous vous positionnez sur des sociétés liées aux cryptos. Déjà, le minage, ça représente un risque qui est assez important et on voit à quel point, par exemple, le graphique de Marathon, ça a été vraiment la bérésina hein, sur ce cycle. On n'a pas un graphique qui est haussier fondamentalement, on est à plat, un coup on monte, un coup on range, on descend un peu, on re-range. Voilà, il ne se passe pas grand-chose. Et d'un autre côté, on a eu les gagnants, bien entendu, comme Coinbase, qui nous ont fait un point bas autour de 32$, un point haut récent à 445$. Donc voilà, là, pour le coup, ça sera des sociétés qui seront beaucoup plus intéressantes, je pense, à regarder et beaucoup plus assises quelque part sur le prochain cycle, à ceci près que, comme vous l'aurez compris, vous ne rentrerez plus les multiples qu'on a fait par le passé et c'est là où vont vouloir s'exposer, bien entendu, les particuliers qui vont se dire, ok, AltBG, voilà, à 1 euro, voire plus tard peut-être 25 centimes d'euros, j'en achète tant, si ça remonte à 1 euro, j'aurai tant, enfin voilà. C'est à chaque fois ce prisme psychologique, ce biais de se dire, petit prix, pas cher, je peux en acheter beaucoup et si ça monte à temps, même un simple retour à 6 euros hein, pour AltBG, en effet si vous l'achetez à 25 centimes, vous faites le delta et vous voyez que vous êtes plutôt bien positionné, mais ça représente le risque maximum, maximal de ce que vous allez pouvoir prendre sur votre portefeuille. Du côté des actions américaines, on a Robinhood qui arrive en haut de canal, donc pareil, une simple moyenne mobile 20 aujourd'hui c'est 96$, sachant qu'on est à 127, une moyenne mobile 50 c'est 65$ avec un Fibo ici, donc on le laissera vraiment dérouler lui plus tard et pareillement je re-rentrerai puisque j'étais rentré très tôt sur Robinhood, on l'avait donné sur la chaîne, je re-rentrerai en bonne et due forme et en temps voulu. On a Tesla également, 443$, pareil on en a pas mal parlé ces derniers temps. Attention, on va arriver sur la zone dure hein, autour de 485-490, c'est l'ATH, le RSI est très haut, le MACD est à peine en train d'accélérer, donc est-ce qu'on va break du premier coup ou du moins du deuxième pour Tesla. En tout cas, c'est une action qui a tendance au travers du temps à faire de très très longs ranges pour par la suite nous faire des performances qui sont assez extraordinaires. La dernière fois qu'il s'en était extrait, il avait poussé 1500%. Peut-être le début de quelque chose sur le luxe français, porté notamment par de bonnes nouvelles en ce moment. On va voir ce que ça donnera. On a LVMH, donc avec son ticker MC, 445€, qui a défendu le support de retour à 511 aujourd'hui. On voit quand même qu'on a une zone dure ici, ça vend pas mal hein, entre 520 et 530. On a un ATH aujourd'hui pour LVMH à 900€, donc ça nous laisse quand même une belle marge de progression. On va voir si on arrive à franchir hein, les 535 à 565. Ici, on a une grosse double zone dure et ensuite, on pourrait venir s'établir à 600, voire 650. Donc, on a des marges de progression qui sont intéressantes, mais voilà, pareil, ça va être assez, on va dire, cyclique, le secteur du luxe. Et là où ça cartonne à tambour battant, c'est quand vraiment il y a beaucoup trop de liquidités, il y a un quantitative easing en cours comme on a eu en 2020. Et ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération aujourd'hui. Non, Jérôme Powell ne va pas faire du QE, on est toujours en QT, c'est-à-dire au contraire, il enlève au bilan de la Fed petit à petit des achats qu'ils avaient faits, donc ils réduisent le bilan, ils se désexposent, ils ne sont pas en train d'acheter au marché. Et derrière en plus, il a encore parlé hier, si je ne dis pas de bêtises, hier ou avant-hier, le temps passe vite, voilà, il disait que ben, là c'était une baisse de taux de 0,25 qui était une baisse de taux de risque quelque part, ils avaient peur d'être vraiment en retard et je pense aussi que le politique derrière presse énormément, mais ils sont vraiment pas sûrs de comment ils vont faire pour la fin d'année, puisque on a tendance à voir malgré tout les chiffres du chômage et de l'emploi petit à petit se dégrader et une inflation qui reste relativement élevée, autour de 3 points, et qui pourrait rebondir courant 2026 à 3,3, 3,5. Ça dépend des analystes. Certains disent qu'ils arriveront à tenir 3, mais ils arriveront à le tenir s'ils ne baissent pas les taux. Donc c'est une mécanique vraiment où la Fed, là, est prise littéralement entre deux feux. Et à partir du moment où ils vont baisser les taux, certes, ça peut faire plaisir à court terme au marché, mais derrière, je pense pas que ça soit la bonne des solutions de mettre la tête dans le sable et de se dire on verra plus tard. Donc ils risquent d'avoir une ligne directive pour les prochains trimestres qui reste somme toute assez restrictive. Le tout, il est vrai, dans un monde où on n'a jamais eu autant de liquidités, mais comme le moteur, les États-Unis restent aujourd'hui un peu ce fameux moteur mondial d'un point de vue économique, ça sera peut-être pas toujours vrai demain. On voit que les marchés émergents sont très bons, que la Chine sont littéralement en train de s'ouvrir au business, etc. Aucun souci là-dessus. Mais malgré tout, on ne peut pas composer, bien entendu, sans le marché américain. Donc tant que le marché américain est autant polarisé avec, d'un côté, là c'est mondial ce coup-ci, le gold, et de l'autre, bah, pour les US, la tech, avec Nvidia, avec les chipsets et avec l'IA, c'est très difficile de voir ben, où pourraient se positionner justement les autres domaines. On a peut-être petit à petit tout ce qui est consommateur, tout ce qui est santé et tout ce qui est bien de première nécessité, etc. Bon, finalement, c'est intrinsèquement lié aux consommateurs qui font un certain rattrapage sur certains domaines en particulier au niveau action US. Mais voilà, c'est quand on observe le fameux Russell tout à l'heure, exactement la même musique qu'on a pu observer sur notre fameux Crypto Total 2 et 3 des altcoins. Avant de faire un micro-tour du côté des alts, je voulais saluer la performance de Alibaba du côté du marché asiatique, donc on peut le trader sur le NYSE et aujourd'hui on est autour de 177$ après un point bas ici à 58. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on avait observé sur la chaîne. C'est pas pour autant que j'ai fait le follow-up au travers du temps ou que je suis rentré moi-même dessus, mais voilà, je pense avoir dit ici à l'époque que quand on était sur le support des années 2015, on avait en effet peut-être un coup à jouer par rapport au risque ratio récompense, et d'autant plus que par la suite on a fait un semblant d'épaule tête épaule inversée, et que c'était une période où, eh bien, on avait, souvenez-vous, des dirigeants, notamment le fameux Jack Ma qui avait disparu pendant 6 mois. On avait un peu une chasse aux sorcières du côté de la Chine par rapport aux grands entrepreneurs comme ça. Et ensuite, après cette période d'aplat, eh bien, on a eu un revirement de situation où finalement, bah, la Chine veut faire du business, la Chine veut s'ouvrir au monde. La Chine, quelque part, même maintenant, se positionne un peu en anti-guerroyeur quand on voit les velléités qu'on peut voir dans certains continents ou certaines contrées. Je ne donnerai pas de nom, mais voilà, il y a aussi des pourvoyeurs de démocratie qui sont les plus grands guerroyeurs de la planète. Vous saurez de quoi je parle ou de qui je parle. Donc, c'est assez drôle de voir qu'aujourd'hui, on a des rôles qui sont inversés. Qu'on a les Chinois qui d'un côté provide un peu vis-à-vis bah, des territoires qui sont de leur côté et notamment des territoires qui sont en guerre, mais tout en ayant un ton un peu plus apaisé quand il s'agit de faire de la diplomatie. Donc je sais pas trop où ça ira la Chine, mais en tout cas force est de constater que là aujourd'hui, oui, ils se sont ouverts, et Alibaba ou même Xiaomi en sont des très bonnes démonstrations, puisque Xiaomi, c'est pareil, depuis le point bas d'octobre 2022 à 8,42 par contre, ici, on est sur le Hong Kong Exchange. Je ne sais pas en quoi c'est coté exactement. Vous me direz pour les pros de l'Asie. Donc, on était à 8,35 en octobre 2022. Ici, on est désormais à 60. Donc, vraiment, là aussi, on a eu une très, très belle progression. Et là, par contre, voilà, quand j'ai ce genre de chart, ça me pose un souci, bien entendu, pour pouvoir rentrer sur Xiaomi. On attaque les alts rapido presto avec le Borg qui continue. Lui, on l'a suivi presque de semaines et de mois en mois. C'est cool. On a franchi donc les 37 à 40 centimes. On est même venu chercher ce matin proche des 50 centimes. Est-ce qu'il est toujours temps de rentrer ? Là, ça devient un peu compliqué. On a le RSI qui est relativement haut, 78, 77, 78. En 2021, le plus haut qu'on ait été, c'était 97. Comme je vous l'ai dit à l'instant, nous ne sommes plus en 2021. Donc vraiment, il va falloir avoir des targets qui sont les plus terre-à-terre possibles pour les altcoins. Quand vous rentrez en x2, c'est déjà très bien. Si vous rentrez déjà plus 50%, c'est déjà très bien. Et si vous rentrez au-delà de x2, x3 ou que sais-je, sur un quelconque altcoin, je suppose que vous aurez mieux performé que l'immense majorité pour cette fin d'année et ce dernier semestre 2025. Donc faites bien attention à ça, notamment pour le BNB aussi, où on est venu chercher 1070$. On a eu une belle poussée récemment et ça a été poussé notamment par Aster, donc Aster Dex, qui est en concurrent direct de Hyperliquid et qui est énormément poussé par Sidi, le CEO de Binance. Et tiens, voilà que j'arrive directement sur Axelar, un des exemples qui a top justement au printemps 2024 et qui a même pas fait la véritable réciproque en décembre 2024. Ça, ce genre de truc, je ne les vois pas, malheureusement, reprendre ne serait-ce que le top ici de 2024 de décembre. Donc c'est des trucs que j'ai gardé en portefeuille, que j'ai pas vendu en 2024 après avoir fait une poussée de 30 centimes à quasiment 3$. Aujourd'hui, mon bac de Axelar, il vaut quasiment plus rien. Peut-être même je suis sous mon prix d'acquisition. Donc je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce cycle, si on n'a pas pris nos profits en mars 2024, voire en décembre 2024, parce qu'il y a quand même pas mal d'alt qui ont fait l'inverse de ça, qui ont fait un top plus haut en 2024 qu'en mars, et ça a permis à des gens de sortir à bon compte. Mais aujourd'hui, quand on observe ça factuellement, alors certes, on peut se dire, ouais, je suis sur support, je joue le tout pour le tout, j'achète autour de 30 centimes, et un simple retour à 50, voire 60 centimes, ça y est, j'ai mon x2. Bien entendu que pour un trader avisé, on a un risque récompense là où on se met un stop autour de 27 centimes et derrière on peut jouer le haut du range. Pour ceux qui veulent faire de l'investissement long terme, est-ce que vous avez envie de vous positionner là-dessus au vu justement de l'action de prix? Je pense que la réponse est non. On a Sui qui est en train de perdre moyenne mobile 20 et moyenne mobile 50. Pareil, ça pourrait accélérer à la baisse. Si ça accélère, eh bien on le reverra quelque part entre 2,35$ moyenne mobile 100 à 2,23$ et le bas de ce range quelque part entre 2,17$ et le support des 2$ tout court. Donc personnellement, après un top à 5,27$, pourquoi pas avoir une velléité acheteuse ici autour de 2$ pour Sui. Après, si vraiment on prend que l'intégralité du dernier mouvement, on voit quand même que voilà, on aura le 0,618 à 2,25. Si on est dans cette optique autour de l'automne, d'un automne plutôt positif, pourquoi pas. Mais bon, on voit qu'au niveau des momentum, hein, pareil, RSI, MACD, on n'est plus du tout dans les amplitudes qu'on a eues précédemment. Et c'est ça qui laisse se poser pas mal de questions pour la suite. Solana s'est fait rejeter également. Depuis les 253$, pareil, on a une bougie qui englobe les deux bougies précédentes. Donc on a le support aujourd'hui dynamique qui est moyenne mobile 50 et 20 autour de 180$, 155$ pour la 100, le gros support des 130 à 135 et la moyenne mobile 200 qui avait été pile poil défendue à la mèche près à 95$ juste sur avril 2025 qui se trouve aujourd'hui à 100$. Donc pour Solana, voilà, après un top proche des 300$, c'est vrai que tout ce qui gravitera autour des 100$ peut être une zone de DCA où on commencera du moins à DCA lors d'un futur bear market. Mana Decentraland illustre très bien la difficulté qu'on peut avoir sur ce cycle au niveau des altcoins. On a eu une contraction dans un triangle qui était juste parfait ici. On a la sortie du triangle début mi-septembre. On vient chercher la moyenne mobile 100 à 39 centimes. Malheureusement, ça n'arrive pas à réaliser et pire encore, on réavale de 39 centimes, on se retrouve de nouveau à 28, on réintègre, on revient sur le support. Donc systématiquement, dès lors qu'il y a un micro-mouvement, toutes les personnes qui sont prises à la gorge, dès qu'ils rentrent en 50 à 100%, ils vendent. Et derrière, au lieu d'enclencher une certaine machine où on viendrait chercher, un peu comme on l'a vu tout à l'heure du côté de Swissborg, et il y a de bonnes nouvelles en plus dans les tuyaux, ils ont fait une énorme keynote que je vous invite à consulter, bien entendu, pour ceux qui suivent Swissborg depuis tout ce temps. On a en effet des projets comme Mana Decentraland qui n'arrivent pas du tout à se relever et sur lequel les spéculateurs, dès qu'ils ont une micro-porte de sortie, se précipitent vers la porte. À AV, on avait eu le double échec donc entre les 350 et quasi 400 dollars et c'était une période où je vous disais clairement, alors que j'étais encore exposé à AV, que j'avais du mal à le voir aller chercher son ATH. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a les idées un petit peu plus claires là-dessus. Ceci étant dit, on voit que la moyenne mobile 50 a été front-run juste avant les 250 dollars, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais d'un point de vue du chart comme ça, pour l'instant, momentum MACD qui est en train de croiser baissier, le RSI est pas fou, donc peut-être l'attendre encore un peu plus bas, pourquoi pas autour de la moyenne mobile 100 hebdomadaire à 175 dollars. Le croc de crypto.com depuis les carabistouilles et cet énorme, on va dire, biseau ouvert qui fait penser un peu au cylindre d'accumulation de Livermore, on est passé de 38-39 centimes à 19 centimes. Donc pour ceux qui auraient payé le top et qui se seraient dit, ça y est, le président des États-Unis rentre sur croc, on va sur la lune, eh bien vous êtes à moins 50%. Donc là, pour moi, ça c'est une bêtise inouïe. Ils ont induit les gens en erreur et clairement, crypto.com et croc, pour ma part, ça en est fini, malheureusement. Mais c'est ce genre de manipulation qui me font perdre toute confiance dans les projets et notamment le fait de fricoter avec une administration qui en ce moment fait tout et n'importe quoi et d'avoir pris ses utilisateurs pour des vous avez le mot, en nous disant qu'ils allaient remettre 70% du supply gelé en circulation, bien que ça se fasse petit à petit. Le cours n'avait pas tant chuté que ça, et derrière, on a eu l'info des États-Unis qui est apparue. Je vous laisse deviner qui en a profité du côté des États-Unis lorsque le cours est passé de 0,07 à 0,39 et avec des prises de profit qui sont tout aussi vertigineuses derrière. Donc aujourd'hui, je n'ai plus la confiance que j'avais malheureusement par le passé dans ce projet ou ce token et je ne chercherai pas fondamentalement à m'y re-exposer par la suite. Avalanche, c'est plutôt propre. On avait vu la dernière fois, on avait un grand W ici où allait peut-être un petit marchepied en ta séance dans un W. Enfin bref, on s'en fout. Toujours est-il, on a récupéré toutes les moyennes mobiles. On est en train de travailler le support autour de 30 dollars. Donc ça en fait un des graphiques qui, à ce jour, est le moins pourri entre guillemets dans les altcoins parmi l'immensité de cet océan de déchets du reste des alts. Donc Avax, là pour le coup, on est plutôt pas mal au vu justement de ce qu'on voit sur le reste. C'est pas pour autant qu'on va partir sur la lune, mais techniquement c'est un des moins déconstruits quelque part. Et on clôturera avec Chainlink qui nous fait exactement ce que nous ont fait les précédents que je vous décrivais, que c'est une horreur, peut-être pas pour les traders court terme mais pour les investisseurs, avec à chaque fois la sensation que ça y est, on est en train de sortir et derrière on réintègre et malheureusement prise de profit, ça ne pousse pas. Et voilà, c'est le jeu du chat et de la souris, c'est le jeu du un pas en avant, deux pas en arrière. Et malheureusement, tant que les conditions ne seront pas totalement réunies d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue peut-être plus tard d'une détente monétaire, mais qui n'arrivera peut-être que dans quelques années de ça pour revenir à un fameux QE comme on a eu en 2020, il faudra vraiment que l'économie américaine se grippe sérieusement ou qu'il y ait un gros problème systémique de marché. Et aujourd'hui, on a aussi la sensation pour les States que le vrai sujet, ça reste les stablecoins, tout ce qu'ils vont pouvoir presser de ce citron-là. Et peut-être que d'ici à la prochaine administration, justement, il se passera beaucoup d'autres choses. Donc vraiment, essayez aujourd'hui d'avoir une vision comme ça à 360 degrés des marchés, de considérer que le marché crypto est un marché parmi tant d'autres et d'investir sur le marché des crypto-monnaies en premier lieu sur des choses fondamentalement solides et robustes, c'est-à-dire Bitcoin. Pour ceux qui aujourd'hui sont dans la crypto et n'ont pas de Bitcoin, je comprends le discours de dire « Ok, j'ai pas beaucoup de capital, j'ai 100 euros à mettre par mois, je veux pas forcément le mettre sur Bitcoin parce que ça va pas faire des énormes multiples. » Mais c'est une manière de penser qui pour moi est une erreur et que l'on retrouve dans le marché traditionnel de se dire « Ok, le S&P 500 en moyenne, c'est 8% par an, mais on voit par exemple que depuis 2020, c'est plutôt du 20, 30, 40% au niveau de sa volatilité. Donc les personnes qui ont été exposées là depuis 5 ans sur le marché actions, comparativement au marché crypto, c'est loin d'être déraisonnable ou d'avoir contre-performé à ce point. On a même ce matin le graphique qui est paru et qui montrait que sur 20 ans, le S&P 500 et le Gold ont fait 700% et le S&P avec dividendes réinvestis en plus. Donc les deux ont fait 700%, c'est-à-dire que depuis 20 ans, les gens qui vous disent que le gold c'est de la merde, en fait vous avez fait exactement la même performance qu'au niveau du marché actions, dividendes réinvestis. Donc aujourd'hui, je ne peux que vous recommander de vous intéresser à l'intégralité des marchés, de vous intéresser un petit peu aux commodités, l'immobilier, si vous kiffez l'immobilier, peu importe. Allez vers ceux qui vous plaira, mais ne restez pas enfermé dans un seul marché. N'allez pas vous pourrir complètement la santé avec des bacs d'altcoins de 50, 100 lignes ou des portefeuilles que régulièrement on voit passer, même dans les analyses de patrimoine et tout ça, à chaque fois, il y a forcément une curation à faire. Et à partir du moment où vous allez avoir comme ça un portefeuille qui va être sur 3, 4, 5 lignes par classe d'actifs, vous allez avoir une sérénité derrière où vraiment vous avez investi que dans des choses dans lesquelles vous aviez des convictions et non juste pour jeter une pièce en l'air, un peu comme au casino, pour avoir ce frisson et vous dire ok, on verra ce que ça donnera, mais au risque de tout perdre. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve ce week-end. Ciao, ciao.